De Radio Classique avec David Abiker.
À 8h39, c'est l'heure de retrouver nos esprits libres. Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate, que vous retrouvez chaque samedi à 8h sur cette antenne avec Jean-Claude Casanova dans l'émission Commentaires. Bonjour vous deux.
Bonjour. Bonjour
David. Merci d'être là ce matin. Vous avez écouté la revue de presse d'Hervé Gattegno, et puis on en a parlé toute la matinée, mais la journée d'aujourd'hui, et puis bon, ce week-end marque ces deux années de l'agression russe en Ukraine. Et la question que j'avais envie de vous poser pour commencer notre discussion, c'était de savoir ce que ça avait changé dans notre vie politique.
Ben, ça devrait avoir changé le regard que l'on porte sur la Russie. Parce qu'il y avait quand même une dominante française pro-russe qui allait à l'encontre de ce que l'on savait de la société russe, surtout du pouvoir russe et de la façon dont Poutine menait les choses. Et donc, rappelez-vous, au tout début, personne en France ne semblait croire que Vladimir Poutine puisse envahir l'Ukraine. Et puis ça s'est produit. Pourquoi ? Parce qu'on avait une certaine idée de la Russie et que cette idée était fausse compte tenu de ce que Poutine voulait faire et avait annoncé qu'il ferait. Donc ça change. Alors ça met un coin dans ceux qui restent au fond très proches de, enfin toujours admiratifs de Poutine et toujours comme s'ils étaient aimantés par ce style de pouvoir qui sont évidemment principalement le Rassemblement National, mais aussi à l'extrême gauche, mais et surtout à LR. Enfin, donc ça creuse au fond, ça met en évidence que certains se sont lourdement trompés, continuent de se tromper, alors que la France elle-même a changé de vision.
Sachant qu'il peut y avoir une russophilie et évidemment une défiance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Cécile Cornudet.
Oui, si, ça l'a bien secoué notre vie politique, cette guerre en Ukraine, notamment parce que ça a fait flamber les prix et on a eu toute une période d'inflation qu'on paye aujourd'hui d'ailleurs dans les dépenses publiques qui a profondément fragilisé le pays. Mais si ça l'avait vraiment bouleversé, ça aurait dû, pour poursuivre ce que dit Jean-Marie, invalider Marine Le Pen et le RN. Or, on voit que c'est eux qui sont complètement en tête des élections, des sondages pour les élections européennes. Donc, ça l'a pas bouleversé tant que ça. Ça l'a marqué.
Qui pouvait croire, Cécile, que les prises de position d'un parti politique français sur une question de politique étrangère pourraient changer le regard des Français? Qui pouvait y croire?
Ça, quand même, ça change. On le voit dans certaines études d'opinion qui disent que, justement, ça a fait prendre... Cette guerre a mis les questions internationales au cœur des réflexions des Français, beaucoup plus qu'avant. Et là, aujourd'hui, quand on pose des questions pour « Pourquoi voterez-vous aux élections européennes ?», la question internationale pèse plus. Mais plus sous l'angle inflation, et là, ça favorise Marine Le Pen, que sous l'angle vraiment diplomatique, parce qu'elle a réussi par des tergiversations, à montrer qu'elle avait quand même pris ses distances avec Vladimir Poutine et les gens l'ont cru.
Et dans la façon de faire de la politique, est-ce que finalement nos gouvernants ont changé? Parce que le leurre est grave, l'Europe est en guerre, je mets des guillemets, en tout cas elle est engagée auprès de l'Ukraine. L'heure étant grave, on aurait pu imaginer que l'exercice de la politique et ses pratiques changent, en vérité pas vraiment.
Oui, en tout cas, la Russie est en guerre contre nous. Elle est en guerre sur le plan de l'information, des fake news, sur le plan sur toute une série, toute une palette de moyens d'action. Changer la politique ou changer le mode de comportement, oui, on aurait pu espérer peut-être, par exemple, que le président de la République se concentre davantage sur la pédagogie des crises que nous vivons, c'est-à-dire la crise ukrainienne, mais aussi la crise au Proche-Orient, et se détache un petit peu plus en laissant son gouvernement un peu plus libre de ses mouvements, et ça n'est pas le cas. On est toujours ramené à cette sphère et à ce président de tout. Donc, et là, on va le voir pour l'agriculture, d'ailleurs, puisqu'il va lui-même au feu, si j'ose dire. Donc, ça n'a en effet rien changé. Et surtout, c'est très gênant parce qu'en fait, on voit bien qu'on est de plus en plus conditionné par ce qui se passe hors des frontières. Les enjeux sont colossaux. C'est vraiment des enjeux existentiels pour nous, enfin, pour nous, Européens. Et on continue, en effet, les mêmes comportements et les mêmes micro-débat d'une certaine façon, alors que l'heure est grave, comme aurait dit Jacques Chirac, la maison brûle.
Et pourtant, Cécile, il y a tout un tas de thématiques, je dirais pas guerrières ni belliqueuses, qui se sont invitées dans le vocable politique, le réarmement démographique, la reprise en main éducative, évidemment la souveraineté médicamenteuse, la souveraineté alimentaire. Ça a changé quand même des choses dans la façon de percevoir l'action politique comme si on était dans un siège, non?
Mais je crois que ça date d'avant.
Ça date d'avant.
Parce que regardez, nous sommes en guerre, c'était phrase d'Emmanuel Macron, c'était pendant le Covid. La souveraineté, c'était pendant le Covid. Donc je pense que ça date d'avant.
En revanche, d'autorité date d'avant.
Oui, voilà. Et donc, en revanche, là, dans la crise agricole, la guerre en Ukraine joue énormément. Parce que derrière tout ça, il y a, on a été trop gentil avec les Ukrainiens. On a laissé rentrer leur poulet, leur miel. Par exemple, l'ouverture de l'Union européenne à l'Ukraine, ça a été un peu un des déclencheurs. Les agriculteurs français se sont dit non, ça va trop loin, on ne peut pas accepter ça. Donc il y a plein de conséquences visibles ou invisibles qui sous-tendent la situation actuelle, mais pas de grands bouleversements non plus dans les comportements. Alors là, je ne crois pas du tout.
L'agriculteur ukrainien a pris la place dans le débat national du plombier polonais. C'est toujours une espèce de réflexe conditionné en France que celui-là. En même temps, si on ferme les frontières, nos agriculteurs n'auront plus que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils n'exporteront plus eux-mêmes. Donc,
vous me tendez la perche pour la transition. Au sujet de ce grand débat demain,
il s'appelle comme ça.
Les esprits, un grand débat donc inspiré dans sa forme par les grands débats qui avaient eu lieu entre Emmanuel Macron, une partie de l'opinion et des Gilets jaunes du temps de cette crise, des Gilets jaunes. Alors demain, rebelote, mais avec des agriculteurs. Vient qui veut, mais pas le soulèvement de la terre. Il y aura des agriculteurs au salon de l'agriculture. Avec Emmanuel Macron, mais les militants du soulèvement de la terre ne sont pas conviés.
L'idée d'Emmanuel Macron, c'est avoir une catharsis. Au lieu de se faire huer dans les travées du salon de l'agriculture, mettre en scène les désaccords pour purger un petit peu le ressentiment. Contre lui, donc là, il y aura un dialogue comme il y avait dans le grand débat, et entre les acteurs, entre eux, parce qu'il veut faire montrer aux agriculteurs la complexité de la situation. C'est pour ça que sont invités grands et petits agriculteurs, et les mouvement écologiste. Mais de là à inviter les soulèvements de la terre qui sont la bête noire des écologistes, c'est eux qui étaient contre Sainte-Soline, les retenues d'eau, et ce mouvement a été lui-même...
Vous voulez dire la bête noire des agriculteurs?
Oui.
Vous avez dit écologistes.
Ah pardon, des agriculteurs, excusez-moi. Oui, des agriculteurs, et aussi normalement de l'exécutif, puisqu'ils avaient interdit au mois d'octobre cette association, avant que la justice ne casse cette interdiction. Donc c'est vrai que c'était incompréhensible d'inviter les soulèvements de la terre. Gérald Darmanin les avait qualifiés de terroristes verts. Hein. Donc ça allait vraiment très très loin. Et du coup, alors, manifestement, l'Élysée a rétropédalé hier, a dit que finalement ils n'étaient pas invités, mais ça ne calme pas pour autant les agriculteurs. Et là, je viens de voir que le patron de la FNSEA vient de dire qu'il n'irait pas au grand débat. Donc, une catharsis peut-être, mais là, à l'heure qu'il est, on voit mal comment elle va pouvoir se dérouler.
C'est toujours dommage de refuser le débat. En plus, on sait bien que c'est une méthode qui convient bien à Emmanuel Macron parce qu'il maîtrise justement l'art du débat. Mais en même temps, c'est très courageux de sa part parce qu'on sait qu'il va être hué au salon. On sait que une grande part de la mobilisation était censée converger vers cela. Alors même qu'on se demande ce qu'ils peuvent demander de plus, certains d'entre eux en tout cas. Ce qui est vrai, c'est l'hétérogénéité du mouvement et la grande variété des revendications. Certains sont axés sur le revenu, d'autres sont axés sur tout ce qui est écologique, etc. Mais néanmoins, de la part du patron de la FNSEA, qui est quand même au cœur de la bataille, refuser le débat, c'est quand même pas très courageux, je trouve, pour des gens qui veulent justement mettre à l'épreuve le pouvoir. Et pour Emmanuel Macron, je trouve que c'est une bonne voie de sortie, non pas de sortie, mais de montrer. Ça peut être très pédagogique, justement, de montrer la variété des revendications et de montrer en même temps tout ce qui se joue dans une crise de cette nature.
Comment s'insère ce débat au Salon de l'agriculture par rapport aux prises de parole, aux actes promis par Gabriel Attal ces trois dernières semaines. Est-ce que finalement c'est un point de départ, un point final
Les concessions faites par Gabriel Attal, elles ont été validées par le président de la République et elles sont sur la table et elles sont en cours de mise en œuvre. Mais manifestement, elles ne suffisent pas. Et il y a chez Emmanuel Macron l'idée que maintenant, si c'est pas lui qui s'en occupe, on n'arrivera pas à régler le problème. Avec quand même sous-entendu un petit peu derrière le fait que Gabriel Attal n'a pas réussi, lui, à déminer la crise et qu'il faut qu'il s'y colle. Il y a un peu ça.
Est-il vrai le président reprocherait à son Premier ministre d'avoir lâché trop de choses trop vite ?
Ou pas assez, les deux, ça dépend, on sent un agacement, mais comme souvent chez Emmanuel Macron, qui à la fois veut quelqu'un qui prenne la lumière et qui un peu n'aime pas qu'il la prenne trop non plus.
Et puis il aime bien démontrer que s'il n'intervient pas, il ne se passe pas de choses suffisamment. Donc ça, c'est un peu...
Mais c'est fou que la FNSEA ne vienne pas au grand débat, parce que toutes ces concessions qui ont été faites au mouvement agricole, elles sont énormes.
Que ce soit clair pour les auditeurs, malgré l'absence du soulèvement de la terre. Parce que au départ, quand ils ont fait, quand ils ont dit on va faire venir le soulèvement de la terre, où ils l'ont laissé entendre, la FNSEA a dit s'ils viennent, on vient pas, mais là ils viennent plus.
Malgré tout, ils viennent pas. Bon. C'est incompréhensible parce que toutes les concessions ont été construites avec la FNSEA. C'est vraiment dans ce domaine, il y a vraiment un partenariat privilégié entre l'exécutif et ce premier syndicat agricole. Mais ce qu'il ne veut pas, je pense, c'est qu'on donne beaucoup la parole aux petites organisations que sont la coordination rurale notamment, parce qu'on est à un an d'élection dans les chambres d'agriculture. Et la coordination rurale qui est proche du RN est vraiment a un peu le vent en poupe. Et aujourd'hui, c'est elle qui active la rue.
Jean-Marie Colombani, est-ce que le patron de la FNSEA a peur, en allant à ce grand débat, de se faire siffler autant qu'Emmanuel Macron ?
C'est pas idiot, ça.
Peut-être, oui. En tout cas, c'est pas un geste très... très noble que de se défiler, en fait, alors que, mais c'est tout, il y a un arrière-plan très politique quand même, parce que la FNSEA, historiquement, est proche à l'origine du RPR, puis de la droite, donc des LR, de la droite classique. Et au fond, elle est pas une courroie de transmission, même comme on le disait à l'époque de la CGT pour le Parti communiste, mais presque. Et elle est très concurrencée maintenant par une coordination qui est très proche, comme le rappelait Cécile, du Rassemblement National. Donc ça joue en faveur d'une surenchère permanente. Mais la surenchère, si on veut bien la chiffrer, annuellement, pour l'ensemble du monde agricole, c'est 20 milliards d'euros payés chaque année, dont la moitié vient de l'Union européenne. Et d'entrée de jeu, Gabriel Attal avait concédé 400 millions de plus. Donc on se dit, vers où va-t-on ? Comment peut-on sortir d'un système de cette nature où l'État a fait, semble-t-il, beaucoup et on lui demande de faire encore plus ? Mais sauf qu'à un moment, d'autres catégories vont se dresser pour dire « Attendez, et nous ?» Donc on est là dans un engrenage qui est très redoutable, je trouve.
C'est le débat qu'Emmanuel Macron espère cathartique. Il y a peut-être une cérémonie qui va être cathartique ce soir, c'est la cérémonie des Césars. À chaque fois, la cérémonie des Césars, depuis quelques années, ressemble à un dîner de famille où quelqu'un vient faire entendre une parole dissonante. Vous savez, quand Freud disait « qu'est-ce que c'est que l'inconscient ?» et il prenait l'exemple d'une salle de conférence ou de colloque, et puis quelqu'un voulait rentrer à toute force et taper à la porte pour dire ce qu'il avait à dire et on le laissait pas rentrer. C'est ce qui se passe aujourd'hui au César. Les gens forcent la porte et posent sur scène les problèmes du cinéma français. Alors quand c'est pas les intermittents, c'est le harcèlement ou les agressions sexuelles.
La tradition, c'est quand même les intermittents et la protestation contre le gouvernement, quel qu'il
soit.
Oui,
tout à fait.
Ouais. Alors même que c'est un secteur qui est quand même assez largement aidé par l'État. Je veux dire, il n'y a pas des intermittents du journalisme. Il n'y a pas des intermittents.
Et pourtant,
de l'agriculture.
Et pourtant, il y en a.
Il y a des intermittents du spectacle.
Ils sont moins aidés, les journalistes, que les gens du spectacle.
Exactement. Donc, vous voyez, c'était à la fois rituel et d'une hypocrisie totale. Et là, en effet, c'est la crise née du mouvement MeToo qui s'invite, évidemment, au César. Et on peut se dire, les professionnels auraient pu trouver un autre cadre pour discuter des problèmes soulevés par tous ces événements, mais bon, voilà, parce que ça risque de faire écran sur ce qui est, si j'ose dire, sur ce qui est la réalité du cinéma aujourd'hui. C'est qu'il y a un vrai renouveau du cinéma aujourd'hui, et notamment tiré par des réalisatrices et des productrices. Justine Trier en est évidemment un exemple très frappant. Et
qui mais il y a des hommes aussi. Quentin Dupieux, il fait des choses extraordinaires. Il fait des films d'une heure et quart qui cassent la baraque.
Oui, enfin, Yannick est pas un si bon film que cela.
Ah si, mais c'est vachement bien, Yannick.
C'est un petit film. Mais cela dit, le réalisateur, vous avez raison d'attirer l'attention sur lui, parce qu'il est très talentueux.
Il innove, il fait des choses nouvelles.
Il est très talentueux, il innove. Mais si vous voulez, au bout de la route, on pouvait craindre que tout ce mouvement justifié, mené maintenant par Judith Godrèche, est un mouvement qui peut atterrir sur la critique du cinéma d'auteur à la française. C'est un peu ça qui est craint. Alors qu'en fait, ça devrait déboucher sur la mise en cause d'une certaine idée de l'auteur.
Du réalisateur tout puissant.
Du réalisateur tout puissant, qui va au bout de son pouvoir et c'est cela qu'il faut mettre en cause et c'est cela qu'il faut arrêter et qu'il faut transformer parce que le cinéma c'est de toute façon quelque chose de collectif.
Cécile Cornudet, est-ce que le cinéma français doit nationaliser, mutualiser ses problèmes? Parce qu'il y a deux attitudes par rapport à ce qui se passe au César ce soir ou ce qui s'y passe régulièrement sur ces affaires de scandales et d'agressions sexuelles. C'est de se dire, mais est-ce que nous, société française, on est concernés par ce lavage de linge sale en famille? Benoît Jacquot, Doyon, et puis il y a les parents aussi de Judith Godrèche, et là on nous étale ça, on partage ça avec nous, finalement qu'ils règlent leurs problèmes entre eux, ou au contraire il faut partager avec la société. Alors, ce sujet-là.
Là où elle est assez habile, Judith Godrèche, c'est qu'elle dit qu'elle se sert de sa notoriété pour déballer son linge sale que des femmes anonymes dans les entreprises, victimes d'un patron tout dominant ou dans d'autres secteurs ne peut pas parce qu'elle est inconnue menée. Donc je pense quand même que ça a un écho dans la société tout entière. Après comme dans tous les moments de catharsis on sent bien qu'on est dans qu'on a du mal à faire entendre un discours de nuance, de il faut que cette parole se libère et c'était pas normal qu'il y ait des prédateurs comme ça sur des très jeunes filles, quel que soit le milieu. Et en même temps, est-ce qu'il faut pour autant tout effacer de leur œuvre? On sait, voilà.
La question, c'est de quelques cas très particuliers et détestables, doit-on faire une généralité qui doit transformer tout un secteur avec, il y avait ce matin dans le journal de Radio Classique à 7h30 un reportage sur les médiateurs d'intimité.
Oui, ça, c'est sur les tournages.
Coordinateur d'intimider, voilà. C'est-à-dire des gens qui apprennent à se positionner dans les scènes d'amour, etc.
Voilà. Bon. Je pense que non.
C'est américain, ça.
Je pense que non. Je pense qu'on peut avoir un discours mesuré en disant il y a des très belles choses dans le cinéma d'auteur. Tous les réalisateurs de cinéma d'auteur ne sont pas des prédateurs, mais qu'aujourd'hui, parce qu'on est en plein milieu de la crise, ce discours est inentendable.
Nous allons nous séparer, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Égypte ancienne, avec du cinéma, mais pas n'importe lequel. C'est la bande originale de Cléopâtre. Signé Alex North, on se souvient tous évidemment d'Elizabeth Taylor. Je vous dis à la semaine prochaine, Cécile et Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous ce matin. Place à la musique, au cinéma, au vrai, au grand cinéma.